Eh bien, avant de commencer cette rencontre, je voulais vous remercier tous d'être venus aussi nombreux. Remercier au nom de toute l'équipe de la base sous-marine Samer Mordad qui nous fait l'honneur de sa présence à Bordeaux. Et remercier la librairie Mola d'accueillir cette conférence. Avant de laisser la parole à Samer, que je ne vais pas vous voyer mais que je vais tutoyer dans la mesure où nous tutoyons dans la vie, je vais me permettre de te présenter, je vais parler sous ton contrôle. Tu es donc photographe et artiste visuel, vidéaste, disons, libanais. Tu as fait tes études de photographie à Saint-Luc-Liège, en Belgique, avant de rejoindre l'agence Vue à Paris pendant 12 ans. Tu as publié en 1992 ton premier ouvrage « Les enfants, la guerre », un ouvrage qui examine l'enfance pendant la guerre civile libanaise. Tu as publié en 1994 un ouvrage qui s'appelle « Retour à Gaza », qui est un portrait en mouvement de 415 Palestiniens expulsés vers le sud Liban. Et également, cet ouvrage portraitise leur retour à Gaza en 1994. Puis, tu as publié trois ouvrages aux éditions Actes Sud, « Mesarabi » en 1999, « Assaoudia » en 2005 et « Beyrouth Mutation » en mai 2013. « Beyrouth Mutation » qui est un portrait de la capitale libanaise depuis 1985 jusqu'en 2012. Et qui s'attache à montrer les changements sociétaux de cette ville. Parallèlement à ça, tu as été commissaire de plusieurs expositions, et notamment aux Rencontres internationales de la photographie à Arles. Et tu as créé plusieurs établissements, parmi lesquels la Fondation arabe pour l'image, avec le photographe Fouad El Khoury et le vidéaste Akram Zaatari, ainsi que le Centre pour l'image à la Bibliothèque publique du roi Abdulaziz à Riyad, en Arabie saoudite. Tu as reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquels le prix Mother Jones à San Francisco pour l'ouvrage Mesarabi, ainsi que le prix de photographe pionnier. Aujourd'hui, tu diriges la marque que tu as créée, arabimagis.com, ainsi que le site Menasat, qui est un site web axé sur les tendances des médias dans le monde arabe. Tu t'occupes également de la communication et de la visibilité pour le site pour Euromed Audiovisuel 3, qui est un programme financé par l'Union européenne de soutien de l'industrie du film dans les pays sud-méditerranéens. Je vais, avant de laisser la parole à Samer, vous repréciser que cette rencontre se passe dans le cadre d'une exposition qui lui est consacrée à la base sous-marine de Bordeaux, du 6 avril au 19 mai 2013, intitulée « Samer Mordad, visions accomplies, les Arabes ». Le vernissage de cette exposition se passe demain à 11h30 à la base sous-marine, avec également le lancement du festival itinéraire des photographes voyageurs. Nous vous convions tous, bien sûr, à ce vernissage à 11h30 en présence de Samer et d'Alain Juppé. Maintenant que les présentations sont faites, je vais laisser la parole à Samer et vous souhaiter à tous une excellente conférence. Je m'éclipse donc pour... Comme tu veux.
Oups, comme t'as envie.
Non, je vais t'observer de la place du public.
Bien. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier Alice pour sa présentation, Adélaïde, Camille et surtout Daniel Martinez, que vous connaissez tous, parce que c'est une figure locale. Elle tient la base sous-marine, elle fait une chose incroyable, que si les Allemands, ceux qui avaient bâti cette base, voyaient ce qui se passe aujourd'hui, ils auraient changé d'avis. Ils n'auraient pas fait la guerre. Je suis tellement heureux de voir vos yeux qui me regardent que moi, d'habitude, je regarde les yeux des autres à travers de mon objectif. Et aujourd'hui, j'ai la chair de poule qui monte à la tête et pas aux mains pour vous raconter, en fait, le rôle que joue un artiste, un photographe, un écrivain, un homme de science, un ulama, tous ces gens qui utilisent leur cerveau, qu'ils utilisent l'outil le plus important dans cet univers, dans son entièreté. Imaginez-vous que tout ce qui se passe à l'extérieur, on est avec, parce qu'on est des humains. Et on a cette pensée qui est transmise par la parole en premier, et qui est soutenue par l'esprit. Et en même temps, tout cela, les trois points que je viens de citer, une fois qu'ils se mettent ensemble, ça crée une cause, et cette cause, elle a toujours un effet. Cela est l'univers, et c'est en nous. Et c'est à nous de se connecter à cette pensée universelle. dans cette démarche naïve que j'ai commencée très jeune. Peut-être que la guerre civile au Liban, elle a fait de sorte que j'ai maturé très vite. J'avais 10 ans quand un soir j'entends des amis de mes parents dans le living room de notre appartement à Brasilia, c'est pas au Brésil, c'est au Liban, c'est une banlieue de Beyrouth, c'est la route qui mène au palais présidentiel à partir du centre-ville. Et j'entends ses amis dire à mes parents avec une inquiétude totale, « Vous devez partir tout de suite, parce qu'on vient vous tuer. » Enfant de 10 ans, je ne comprenais pas. Parce qu'encore la veille, je jouais avec les enfants qui habitaient le même immeuble et les maisons à côté. On allait cueillir les mandarines dans les vergers un peu plus loin. Et soudainement, ces gens-là, leurs parents, ils veulent nous tuer. Ça veut dire quoi? Beaucoup de Libanais, pendant longtemps, ils ont appelé ça des événements. Alors que c'était une guerre civile. C'est lorsque votre voisin, il prend son arme et il vient vous menacer pour partir ou il vous tue pour prendre contrôle de vos biens et de vos assises. Et vous êtes expulsé, soit vers la mort, soit vers ailleurs, où vous devenez radical, parce qu'on vous a fait perdre tout le fruit d'une vie. Moi, j'avais 10 ans, le fruit de ma vie, c'était mes cahiers scolaires, c'était les quelques livres, quelques Tintins, quelques Obélix, Astérix. Mais mes parents, ils avaient leur vie. Ma mère, poète, qui vient de décéder il y a un mois et deux semaines, elle avait ses écrits, elle avait ses manuscrits, elle avait ses peintures. Elle avait une librairie, une bibliothèque, mais pleine de beaux livres. Mais des beaux livres et certains manuscrits qu'elle a hérités de sa famille. J'ai vu perdre mes parents tout cela. Et on est parti. On est parti dans une région qui était contrôlée par les gens qui ne voulaient pas nous tuer, qui voulaient plutôt nous contrôler pour en faire des combattants de premier ordre, vu qu'on a subi une perte. Cette région, à l'époque, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent le Liban. Est-ce que je peux poser cette question? Alors, il y a Beyrouth. Le Liban, c'est comme une tête de lance. Il a au sud Israël, derrière la Syrie, et la Syrie aussi du nord. En face, il y a plus ou moins Chypre et la Méditerranée. Et en ligne droite, on arrive en Italie. Nous, on habitait dans la banlieue de Beyrouth, la banlieue sud-est. C'est un quartier contrôlé à l'époque, en 1975, au début de la guerre civile, par les Ahrar, les libéraux, qui étaient annexés aux phalangistes. Et c'est ce qu'on pouvait appeler à l'époque, encore, comme il y avait une certaine laïcité, la droite. De l'autre côté, il y avait la gauche. Il y avait les socialistes, il y avait les communistes. Et il y a un parti qui est de l'extrême droite qui s'était rallié à ces mouvements de gauche. Étrange. Et comme nous, on était plutôt de gauche, on était menacés. Alors en partant sur la route, le lendemain, parce qu'ils ont passé la nuit chez nous jusqu'à 4 heures du matin, les amis, et le lendemain matin, vers 4 heures, à peine l'aube est levée, mes parents, ils avaient deux voitures, on avait mis tout ce qu'ils pouvaient mettre là-dedans. Alors la place, elle était prise par les manuscrits, les livres de ma mère, et ces quelques peintures, les plus importants. Nous, on a pris quelques vêtements, on a mis dans l'autre voiture. Et les voisins, ils ont pris une troisième voiture et on s'est partagé dans trois voitures. Au cas où il y a une voiture qui tombe dans un piège ou arrêtée par un barrage et Comme ça, au moins, il y a des survivants. Alors, on est parti vers la montagne, c'est-à-dire on a pris la route de Damas et on est monté jusqu'à la région de Halley. Moi, enfant, comme on jouait avec les enfants du quartier, on avait déjà la vue de ces miliciens jeunes de 18, 16 ans porter des croix en bois. J'avais fabriqué ma croix en bois. Et passant cette montagne, au moment où on arrive à la frontière où on serait « safe », comme on dit en anglais, c'est-à-dire « sauf » de l'autre côté, j'ai tellement forcé sur la croix, je l'ai cassée. C'est-à-dire que pour moi, c'était une nouvelle vie qui commençait et j'avais déjà conscience de ça à l'époque. On s'installe, on refait une vie. Soudainement, il y a l'armée syrienne qui envahit le Liban sur la demande de leurs pires ennemis. Normalement, aujourd'hui, la droite libanaise ou les phalangistes ou les forces libanaises ou les chrétiens libanais. Si on veut vraiment rentrer dans le sectarisme libanais, il faut parler des religions. C'est vrai, c'est un pays où il y a 18 religions qui vivent ensemble. C'est un exemple de communautarisme. Mais la réalité sur le terrain, elle a été bien changée avec la guerre civile parce qu'il y a eu des histoires de sang qui sont rappelées aussi l'histoire du Liban qui est sanguinaire depuis très longtemps, en fait. Si on regarde l'histoire du Liban, il n'a vécu que des moments très difficiles et où il y a eu des guerres, où il y a eu des morts, il y a eu des martyrs, d'où la place de martyrs qui est au centre-ville. Un pays occupé par l'Empire ottoman pendant 4 siècles et opprimé en même temps, avec plein de guerres civiles. C'est-à-dire la guerre civile qu'on a vécue en 75, on avait déjà vécu une guerre civile en 58, plus ou moins similaire, et on avait vécu une guerre civile pareille en 1863, qui avait eu plus ou moins le même effet que la dernière guerre, surtout dans sa dernière phase, où les Druzes et les chrétiens, ça vous avez tous entendu parler à la télé, ils se sont massacrés. Peut-être que les télés, ils ont forcé plus que les Druzes, ils ont tué des chrétiens, mais moi, témoin de l'époque, je vous assure que dans ce genre de situation, il n'y a que des victimes civiles, et souvent j'étais choqué à voir les mêmes images publiées dans les deux supports des deux parties qui se s'entretuaient, en disant que c'est leur propre martyr. Et vivant tout ça, aujourd'hui, à 48 ans, je suis né en 64, 67, la défaite arabe, que vous avez tous entendu parler. J'étais enfant, mais tout ce qui se passait enfant, on l'enregistre, et ça revient plus tard. Et moi, c'est revenu à travers les images que j'ai faites dans ce monde arabe, et sur le Liban, et où je me suis concentré à étudier cette région d'une manière sentimentale, à la recherche de mon identité, parce que Libanais, c'est quoi Libanais ? C'est pas une identité. C'est, pour le moment, il n'y a même pas une citoyenneté réelle libanaise. Il y a des clans qui appartiennent à des religions, et que pour le moment, ils sont maintenus ensemble parce qu'il y a des affaires à faire. Il y a les banques qui tiennent tout. Et les banques, ils ont appris à comment gérer des crises pour que le pays reste une banque sécurisée. Parce qu'il faut que ces marchands d'armes posent leur argent quelque part. Et comme vous le savez aussi, peut-être, les Libanais, c'est les plus grands marchands d'armes au monde. Et ils ont appris à devenir encore meilleurs marchands d'armes avec la guerre civile, où ils testaient des armes technologiques et biologiques, et tout ce que vous voulez, pour les grands marchands d'armes du monde. De mon vivant, quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré un recruteur de la CIA à Beyrouth, après l'invasion israélienne en 82. Il venait recruter des jeunes entre 18 et 21 ans, qu'ils ont déjà fait la guerre et qu'ils ont survécu au combat pour les emmener dans des missions spéciales et les recruter comme agents de la CIA J'étais à table avec un type, avec d'autres jeunes hommes de mon âge, et il proposait un contrat aux gens présents. Beaucoup d'argent en retour, mais pas de questions. Bon, moi, ça ne m'a pas intéressé. D'autres, ça les a intéressés. Et ce qui est beau dans la vie, que le temps, il fait toujours de sorte que les histoires se complètent. Un de ces personnages qui était à table avec nous, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Il n'est pas marchand d'armes, mais il est intermédiaire entre acheteurs et vendeurs. C'est un métier de dealer, ce qu'on appelle aujourd'hui, même dans les milieux artistiques. Il y a un intermédiaire. Moi, artiste, je ne peux plus normalement communiquer avec un collectionneur. Parce que le mécénat, il a disparu. C'est devenu des bourses données par des institutions financières, par des fiduciaires, par les gens qui font l'argent pendant que nous tous on trime. On paye des taxes, on paye des TVA, on paye, on ne fait que payer. Il y en a d'autres, c'est comme l'acier. À l'aller, au retour, ils bouffent. Jusqu'au moment, il n'y a plus d'humains. Parce que l'humain, ce n'est pas leur souci. On l'a vécu, on l'a vu, on a témoigné. On a fait beaucoup de travaux qui dénoncent tout cela. Mais apparemment, ce qui finance ces dénonciations ou ces travaux ou l'œuvre artistique ou tout cela, c'est les mêmes qui causent les guerres et qui vendent les armes. On arrive à un temps fou. Où, si je suis aujourd'hui ici, et si j'ai l'occasion de vous raconter des choses que peut-être vous allez répéter, j'espère que vous allez répéter, parce que je ne suis pas annonceur de vérité ou porteur de message, je vous raconte une histoire que j'ai vécue et que j'ai témoigné avec des photographies de cela. Et dans mon dernier livre, Beyrouth Mutation, vous pouvez lire vraiment le Samer, le jeune, et on va revenir sur le Samer, qui a vécu tout cela, qui l'a découvert, qui est parti naïvement à découvrir en lui et en face ce qui se passe. Et cela, c'est écrit. On peut dire que c'est écrit aujourd'hui, et pas seulement que c'est écrit, c'est aussi photographié. On rajoute une couche à ces paroles qui sont inscrites dans le langage quotidien, en fait. Alors, montrer tout cela et le mettre en ordre est ce qui fait que le livre a été publié, que l'exposition a eu lieu, qu'on en parle aujourd'hui, des mutations de Beyrouth et tout cela, c'est venu grâce à une banque. C'est une banque qui s'appelle France Banque. C'est très proche, c'est très familier. Comme ils sont très mêlés à la politique, à la géopolitique, au marchandage et tout ça, le président de cette banque, ou le owner, ou celui qui possède cette banque, qui est assez riche, était un des ministres à l'époque de Hariri, etc., mais qui n'était pas pro-Hariri. C'est-à-dire, ils sont tous les deux musulmans sunnites, et ils étaient un peu en conflit d'intérêts. C'est lui qui décide tout. Moi, à travers sa fille, qui dirige le marketing, j'ai posé le dossier. Et il a trouvé, lui, que c'est une très bonne occasion de rappeler ce qui s'est passé avant. Pour ne pas retomber dans la même chose. Il n'y a que les gens un peu, comment dire, nostalgiques d'un attardement temporel, qui aime bien répéter les choses, sachant que ça va mener au résultat de la première expérience. Bon, nous, au Liban, on est experts. Ça, c'est parce qu'on a aussi une amnésie qui l'accompagne, et ça fait de sorte que les choses, elles évoluent dans une beauté externe, sûrement Le Liban, il vous attire par le nom, par sa renommée, par sa beauté, par le fait qu'on peut skier, aller nager en même temps, le beau temps, le peuple qui reçoit, qui fait de la bonne nourriture. C'est ce qu'on vend au Liban. C'est ce que le ministère du Tourisme essaie de vendre à tout le monde, malgré qu'ils savent très bien ce qui se passe dans le pays et comment ça se passe. Je pense que c'est plus honnête de dire à quelqu'un la réalité et qu'il aille lui-même faire l'expérience et voir de ses propres yeux. Il n'y a pas de mal à ça parce que ça existe et c'est là. Alors ce banquier, voyant tout ce qui se passe dans la région, il a décidé de tout d'abord sponsoriser le travail. Il n'avait pas vu tout le travail. Et il n'avait pas vraiment aussi lu toutes mes intentions, malgré que je les avais écrites. On avance dans le projet et c'est le mystère. Ça, c'est toujours le mystère, comment on arrive à convaincre les gens à allonger l'argent. J'ai jamais vraiment compris comment ça se passe, mais l'argent est mis sur la table, je commence le projet, parce que c'était énorme. Je vous raconte juste un peu après comment ça s'est passé, le projet pour le réaliser. Et au moment où je présente une première maquette, là, il y a eu une peur soudaine, panique à la banque, d'en bas jusqu'en haut. Mais comment on va sponsoriser ce travail-là? C'est impossible, c'est politique, C'est plus que politique, ça touche vraiment les profonds. On fait une mise à nu du Liban, mais ça ne se fait pas. On ne va pas être vraiment les financiers qui vont mettre à nu le Liban. Après une rencontre, de nouveau, j'arrive à présenter à la banque, au banquier, je le tranquillise en disant « Mais au final, vous n'êtes pas sponsor, vous êtes mécène. Vous êtes le premier mécène dans ce monde arabe qui investit de l'argent » dans un travail artistique qui a un but social et qui peut montrer des solutions et montrer par l'image ce qu'on ne veut pas revivre. Là, ils étaient tranquilles. Ils m'ont demandé de ne pas mettre leur nom ni dans l'expo, ni dans le livre. Et ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Ça prouve que quelque part, ces humains, lorsqu'ils sont coincés comme n'importe quel humain, ils font travailler leur cerveau. Autrement qu'ils le font d'habitude à calculer des chiffres. Parce qu'ils ne sont que dans les chiffres. Et combien ils ont fait de bénéfices pour leurs associés, combien ils vont se distribuer, quel avion ils vont acheter. Et c'est à ce niveau-là. Ils ne voient pas ce qui se passe réellement, autre que dans les photos et aujourd'hui dans le livre Beyrouth Mutation, où je suis très content, parce que du coup, ils sont porteurs de ça. Et maintenant, ils distribuent le livre intérieurement à leurs clients qui sont intéressés et assez intelligents et ayant un certain pouvoir pour contrôler les voyous de la rue. Parce que ça, c'est aussi une autre manière de fonctionner, c'est on crée des voyous pour les contrôler. Le jour où on a besoin de ces voyous, on les envoie faire les voyous et déranger de sorte qu'on a besoin du maître pour les retenir. Comme ça, on ne peut jamais se passer du maître. C'est le cas, par exemple, du président du Parlement libanais. Très clair, tout le monde le sait. Tout le monde en parle. Même les journaux, ils en parlent. Parce qu'on a la chance au Liban d'avoir la liberté d'expression. On parle. On met dans les journaux, il ne faut pas citer trop les noms, il ne faut pas aller dans la provoque, parce que là aussi on se retrouve bien clapé, mais on parle. Les gens discutent dans la rue, dans les cafés, ils disent de tous les politiques, ce qu'ils pensent, etc. Mais le jour des élections arrive, ils courent tous voter pour eux. Parce que c'est la tribu qui décide. C'est-à-dire même moi, si j'ai des idées différentes de ma famille, de ma grande famille qui appartient à une religion ou à une sous-religion. Je ne vais pas rentrer dans cela parce que c'est... Vraiment, il faut prendre un calepin et noter pour retenir les noms parce qu'il y en a 18. C'est rare de se retrouver avec ce nombre. On proposait même avec Samir Kassir, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, Samir Kassir, qui est un des personnages qu'ils ont fait ce mouvement en 2005 pour faire sortir les Syriens du Liban après l'assassinat de Hariri. C'est un ami et il n'a pas fait tout seul. On est tout un gang autour. Et on a fait les choses jusqu'au jour où les politiques qui sont arrivés, ils ont tout contrôlé. Exactement ce qui se passe aujourd'hui dans tous les pays arabes que vous voyez en mouvement ou en évolution. Ah, c'est un passage génial. Mais voyant ça à l'avance, on peut savoir qu'il va y avoir des moments très, très, très lourds et difficiles et coûteux avant de ressortir, quoi. Alors, je ne sais pas si vous tenez à ce que je reste dans ce qu'on a annoncé dans le carton, ou parce que moi, c'est un peu ce que je présente aussi. Je lis les choses d'une telle manière à arriver à ce documentaire artistique. Où cette photographie, qui a commencé avec des grands noms que vous connaissez sûrement, surtout en France, Cartier-Bresson, Doisneau, tous ces grands des temps modernes, qu'ils ont fait que cette photographie, elle a existé, elle a fait exister une agence qui est Magnum. Et ça a amené à des institutions, des grandes institutions dédiées à la photographie en tant que document artistique qui a une valeur sûre et qui est collectionné. Citons la Maison européenne à Paris, le musée de l'Élysée à Lausanne, le musée de Charleroi en Belgique. Ils ont des collections sublimes et fameuses qui valent des milliards, mais des centaines de millions déjà. Pourquoi ? Parce qu'il y a les dealers. Les dealers, leur business, c'est de trouver un acheteur qui désire acquérir une œuvre. Et faisant de sorte que dans leur réseau, il y a des gens qui spéculent, prêts à mettre des grandes sommes d'argent. D'où elles viennent ces sommes d'argent, on ne sait pas. Ils arrivent souvent dans des sacs en plastique, des sacs de commission. Je vous assure, des liasses pour acheter des œuvres. Et avant de vendre au collectionneur qui est honnête, il y a quelques coups qui se font comme ça, on blanchit plusieurs sommes d'argent, des grandes sommes d'argent parfois sur des grandes œuvres, jusqu'au moment où on arrive au collectionneur final et on lui vend l'œuvre. On touche l'argent, on redistribue. Comment vous appelez ça ? Moi, je l'appelle blanchiment d'argent. Alors, on blanchit l'argent des marchands d'armes, parce que l'argent qu'il faut blanchir, ce n'est pas l'argent propre, ce n'est pas celui des grandes institutions financières en Suisse, où il y a un audit, et eux, ils font ça pour d'autres raisons fiscales, etc., où ils investissent dans les œuvres d'art, ils les achètent à des coûts très élevés. Ils font des concours aussi pour mettre en compétition les... Parce que la photographie, personne ne peut dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter. Ce n'est pas comme les peintures qui datent depuis un moment où le marché il a stabilisé, on connaît les valeurs réelles, ça a été transmis plusieurs fois... Il y a des casques qu'il y a eu pour avoir des œuvres qu'on ne pouvait pas convaincre le vendeur de les vendre. Mais la photographie, c'est moderne. On vient de vendre Avdon, il y a un an et demi, l'œuvre La Dame avec les éléphants, à 1 500 000 dollars, c'est-à-dire 1 200 000 euros. C'est incroyable. C'est vrai, c'est une pièce unique. C'est une belle pièce unique. Et pour l'histoire, Avdon, je l'ai rencontré, j'avais 23 ans. Je venais de finir l'école, d'être recruté à l'agence Vue, où j'ai commencé vraiment en 89 à être photographe de l'agence Vue. Soudainement, je rencontre les gens du musée de l'Élysée qui m'invitaient à aller faire une exposition, à montrer des tirages, et je me retrouve jeté dans une lecture de portfolio faite par Avdon. Réputé d'être très méchant. Alors, jeune homme avec mes cheveux comme ça, j'ai la photo, hein, je peux vous la montrer. Avec mon innocence d'habitude, surtout de l'époque, qui était bien marquée avec mes joues, bien souriant tout le temps. même quand j'étais triste. Alors, le tour commence par des grands photographes suisses. Et off dans les casses. Premier, deuxième, je ne veux pas citer des noms parce que c'est des grands photographes aujourd'hui, bien cotés en Suisse. Il arrive mon tour et je sors de ma farde parce que j'avais préparé des tirages 40-50 que j'avais fait moi-même, travaillé dessus des nuits entières pour être impeccable pour une grande expo au musée de l'Élysée. C'est tout de suite être jeté là-dedans, c'était incroyable pour moi. Alors j'ai bossé comme un fou. Et je sors la première image, c'est la couverture du livre « Les enfants, la guerre ». C'est dommage, on ne l'a pas ici, parce que c'est un livre qui est devenu rare. Et il y a l'occasion de voir les tirages et les images à la base, pour ceux d'entre vous qui ont envie de voir cette image. C'est un enfant qui porte le cadre de son papa, le portrait de son papa, qui est mort. Et le cadre lui-même, il y a un impact de balle, ou d'éclat qui touche la tête du père. Et l'enfant, il porte l'image et sa maman, elle est à côté, elle parle avec la voisine qui est dehors. C'est Avdon, il voit ça de loin et il crie « Ça, c'est de la photo. C'est ce que j'appelle de la photographie. Viens là, toi !» Bon, je prends ma farde, je vais vers lui. Il prend la photo de maman, il la montre aux autres. Il dit « Moi, j'ai passé toute ma vie à essayer de faire ce genre de photographie, j'ai pas réussi. Toi, t'es un grand, et il commence à me gonfler. Moi, bon, je l'étudiais il y a un an, deux ans auparavant, à l'école, comme un grand maître. Il était là, en train de me gonfler. Je suis devenu vraiment comme un ballon, quoi. On sort de là-bas, et Avdon, il me propose de faire un échange de photos. Il me donnait une photo de lui, et que je lui donnais ce tirage. Et là, je réfléchis quelques secondes et je me dis, waouh, ce tirage, j'ai passé 3 jours pour le faire. Parce que très difficile à faire. Il fallait masquer, frotter, souffler sur le tirage pendant qu'il développait le papier, etc., pour sortir le... Je dis, écoute, non, là j'ai une exposition, je le montre à l'exposition. À la fin de l'exposition, il y avait le directeur du musée de l'Élysée, toute l'équipe qui sont là. Ils me disent, mais non, t'es fou, dans lui, il va oublier. Dans lui, comme ça, il serait obligé de te donner son tirage. Mais je ne pensais pas valeur, en fait. Peut-être ce serait passé aujourd'hui, je l'aurais fait, mais bon, peut-être pas. Parce que... on ne prend rien avec nous. J'ai vu ma maman disparaître avec tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Elle est partie comme tout le monde. Rien. Sa mémoire reste. On va travailler dessus, on va la transmettre, etc. Mais elle, personnellement, fini. On revient à Avdon. Je dis, non, je ne peux pas envoyer le tirage. Je vais t'envoyer le tirage, t'inquiète pas, après l'expo, etc. Le temps passe, je n'envoie pas le tirage. Christian Cojol va à New York, il revient, il me dit, mais Avdon, il attend son tirage. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas ramené le tirage qu'il m'offrait comme ça? J'aurais été forcé. Il me dit, non, mais c'est à toi d'aller, de voir, etc. Je vais à New York, il n'était pas à New York. Après, il y a eu, en septembre, je ne suis plus allé à New York, et Avdon, il est décédé, et on n'a pas fait l'échange. Mais bon, l'histoire, elle est là. Elle est intéressante dans le sens que ça montre qu'est-ce que ça veut dire un tirage en 89, novembre 89, que j'aurais eu comme ça, en échange d'un tirage que j'ai fait, qui m'a coûté, c'est vrai, 3 nuits de travail, etc., que j'aurais pu faire chez Picto, ça aurait coûté à l'époque 50 francs français. Et aujourd'hui, je me serais retrouvé avec un tirage d'Avdon, vu qu'il a vendu à 1 500 000, et avec l'histoire, ce tirage qui est un vintage échangé avec, à l'époque, etc., ça aurait eu au moins une valeur de 250 000 euros. Superbe comme investissement. Personne ne dira non à ça. Et en plus, ça vient vraiment d'un travail, etc. Mais easy money, c'est de l'argent facile, qui comme jouer à la bourse, acheter Microsoft au début des années 70 et dormir dessus 1000 actions. Ça aurait coûté 500 dollars à l'époque. Dormir dessus jusqu'à aujourd'hui, ça aurait fait 5 millions ou un peu plus. Alors, Les valeurs artistiques, elles sont là. Ce n'est pas les dealers qui décident. C'est vous. Au final, c'est le public qui doit décider. C'est les gens. Quand ils voient une image et ils sont émus, ça, c'est une bonne image. Mais malheureusement, les dealers, ils sont là. Après, les dealers, certains, ils ont des galeries, certains, ils n'ont pas de galeries. Les galeries, c'est autre chose, c'est encore plus ancien. C'était aussi une sorte de créer un marché, une demande et une offre pour que ces œuvres circulent. Il fallait des magasins qui vendent l'art. Et il y a les agents, ils sont là depuis longtemps. Mais ces dealers, ils sont arrivés récemment. Et le mot, il est inspiré très clairement, en fait, des dealers de drogue et dealers d'armes. Eux, ils dealent l'art, blanchissent l'argent, et malheureusement, on les laisse fixer les lois du marché. On les laisse décider que telle œuvre, à peine l'artiste il sort de l'œuf, on la vend à 15 000 dollars. Attends, et l'autre qui est là depuis 30 ans, qui a fait ses marques, qui a mis en place presque le marché, il est obligé, du coup, à vendre aussi à 15 000 dollars. Qui est heurté dans tout cela? Les vrais collectionneurs. Les vrais, ceux qui aiment l'art. Parce qu'ils ne peuvent plus acheter à 15 000 dollars. Il n'y a plus que les grands riches, ceux qui ont dans plus que des centaines de millions, qui peuvent se permettre 15 000 dollars comme ça pour acheter une œuvre. Alors, ceux qui pouvaient acheter à 1 500, 2 000, disons, des œuvres extraordinaires à 3000, ceux-là, ils ne peuvent plus. Aujourd'hui, ils sont écartés du jeu d'acheter des œuvres originales, des vintage, parce que les maisons de vente, qui sont souvent sollicitées par ces dealers comme plateforme de créer, en fait, la spéculation et faire une vente aux enchères, ils sont en train de faire des bénéfices, comme les banquiers, parce que eux, peu importe le prix que ça se vend, ils ont un pourcentage, et plus ça se vend cher, plus leur pourcentage monte. Pour l'anecdote, je vous raconte une histoire qui s'est passée vraie, et j'ai travaillé sur la collection qui a été acquise. Il y a un prince saoudien, je ne vais pas citer des noms, parce que ça ne sert à rien, c'est un prince saoudien. Voilà. Il voit chez Christie's, un ensemble de photographies 19e, c'est des albumines, c'est des très belles pièces. Une collection qui assemble toutes les photographies faites à l'époque de toute la région du Proche et Moyen-Orient. Il trouve ça génial. Il parle à un cousin, à lui aussi, un prince saoudien. Il raconte que j'ai vu ça chez Christie's. Et tous les deux, ils décident d'acheter, chacun de son côté. Et les enchères montent. À la fin, c'est acheté à 16 millions de dollars. Un truc qui devait se vendre 800 000 au maximum. C'est un très bon prix pour ce genre de... Parce que ce n'est pas des pièces d'art, c'est des archives. Il y a quelques pièces d'entre elles, c'est vraiment des pièces de collection, mais le reste, c'est des archives. Qui a acheté? Le cousin, celui qui a appris que ça existe. Et qui a surenchéri? Celui qui a annoncé au cousin. Deux princes saoudiens, cousins, ils ont commencé à surenchérir chez Christie's. Par téléphone, bien sûr, ils ont un dealer qui est là, qui dit oui, on y va. Sans lui dire qui est en face. Ils ne savent pas qui est en face. Ça monte, oui, ça monte. Allez, hop, 16 millions de dollars, il achète. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il découvre que c'était l'autre qui était en train de surenchérir, il lui offre. Il se retrouve avec un investissement de 16 millions de dollars à la librairie du roi Abdelaziz. Des très belles photos dans des boîtes moyennes. Pas de boîte de conservation, sans Marie-Louise, sans protection. Et il les pose dans un dépôt, jusqu'au jour où je suis invité à aller exposer mes arabis. C'est mon premier livre publié chez Actes Sud en 1999, à Riyad. En 2000, Riyad, elle était capitale culturelle du monde arabe. Il m'invite à exposer là-bas. Et de fil en aiguille, ils me disent, tiens, toi qui as fait la fondation Un pot d'image à Beyrouth et qui se connaît là-dedans, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Ils me montrent les images, et je vous assure. La plupart des images, elles avaient déjà crôlé. Parce qu'ils ont mis le chauffage. Pour protéger les images, ils ont mis le chauffage. C'est vraiment tuer toutes les images. Alors, je crie, ouh là là, ça va pas, ça marche pas, parce que pour eux, c'est l'hiver, ils mettent le chauffage. Alors, c'est normal, parce que dans tout le bâtiment, ils vont pas. Et ils me disent, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis, bah, il faut faire un travail de conservation, restaurer les pièces, et faire de sorte d'éloigner tout ce qui est acide des images, parce que c'est des albumines, c'est du blanc de l'œuf, de blanc d'œuf avec une sorte de bromure dedans, c'est très fragile. Et moi, j'ai l'équipe qui peut faire ça, etc. Bah, ils me disent, faites-nous un projet, je fais un projet, ils acceptent le projet, on va s'installer en Arabie Saoudite, on commence le travail. Le travail, il a pris plus ou moins 2 années et demie pour installer la salle de conservation et restaurer les pièces les plus, celles qu'ils avaient le plus besoin, en fait. Mais on a mis tout dans des boîtes, séparées, cataloguées, digitalisées, numérisées, pour n'aient plus besoin d'aller chercher. Parce que eux, tel prince ou tel cousin du prince, il a envie de faire une photocopie ou il a envie d'une copie de l'image qu'il a vu publié dans tel catalogue. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ils allaient fouiller dans les tirages comme ça. Ils sortaient le truc, ils mettaient sous la photocopieuse, tchic, 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 la photocopieuse coulant. Ils envoyaient la copie et ils remettaient le tirage plié un peu. C'est pas grave, ferme, ferme, c'est bon. Bon, on a changé toutes les règles, on est tout numérisé. Ils n'avaient plus besoin d'aller là-bas. Ils regardaient sur l'écran, ils lui imprimaient, ils lui envoyaient. C'était ça le problème. C'est peu importe le travail qu'on peut faire pour mettre en place, il y a cet esprit qui pense pas aux conséquences et il fait de sorte qu'il détruit tout au passage. Et ça, c'est une nature en fait qui vient de la nature bédouine. Que bon, c'est des gens nomades en fait, malgré qu'ils ont des territoires, ils sont nomades dans leur territoire. Ils sont élévateurs, ils ont des chèvres, ils ont des dromadaires, ils ont des chevaux et ils tournent. Et jusqu'au moment, ils n'ont plus de quoi donner à manger à leur bétail. Alors, ils font une razzia. Ils vont prendre chez l'autre. Et de l'autre côté, il y a qui? Le citadin cultivateur qui travaille la terre, qui bosse comme un fou, qui construit des maisons, qui bâtit des grandes bâtisses comme les pyramides et tous ces Baalbek et tout ça. Et il y a le Bédouin qui vient faire des razzias chez lui de temps en temps. À celui-là, il a appris à se défendre, il a monté des armées, il a fait des citadelles, etc. Et l'autre, il a fait la même chose dans le désert, mais sans beaucoup de peine, parce que c'est des citadelles naturelles, grottes, machin, c'est jusqu'à l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Et là, le pétrole, machin, le roi Abdelaziz, il fait un deal avec les Américains et les Anglais, que tout le pétrole, c'est à eux. Lui, il s'en fout, il veut juste l'argent, mais il le laisse contrôler toute l'Arabie saoudite que vous connaissez aujourd'hui, que ce n'était pas un seul royaume. Il y avait le Hijaz, il y avait le Médine, il y avait les shérifs de la Mecque, qu'aujourd'hui on les retrouve un peu en Jordanie, c'est le roi Abdallah. Et ils font leur attaque, les salafistes, comme ils ont fait au Mali, là, que vous avez tous entendu, ils ont démoli les mausolées, les trucs des soufis, ils ont fait pareil. Ils ont laissé juste la Kaaba. Mais même la tombe de la maman du prophète, elle a été démolie. Ils ont éradiqué toute trace du soufisme. Parce que le soufisme, c'est leur pire ennemi, parce que c'est l'alternative à la charia islamique. Et le soufisme a été mis en place par des grands penseurs, par des grands philosophes, par des grands scientifiques, des grands mathématiciens. C'est pour échapper à la charia qu'elle est radicale. Et ce soufisme, en fait, il ne convient pas du tout au programme de l'Arabie saoudite et des wahhabites. Aujourd'hui, si on veut arrêter tous les mouvements extrémistes musulmans, ce qu'on appelle les salafistes ou les wahhabites, On fait l'embargo sur l'Arabie Saoudite et le Qatar. Plus un sou qui sort chez eux, ils vont s'éteindre tout seuls. La solution, on arrive après avec une autre culture qui enseigne la laïcité. On injecte de l'argent, que ce soit l'Europe ou le monde occidental. Si on veut sortir de ça très vite, on arrête tous les massacres là, qui se passent en Syrie et ailleurs. Ça s'arrête tout de suite. Comme ils font avec l'Iran, ils font avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. On remplace les programmes installés par eux par des programmes où on intéresse les jeunes à la culture, à l'ouverture d'esprit, à la lecture, à regarder les choses sans préjugés, etc. Introduire un enseignement laïque, tout simplement. On sauve tout. Et tout ce qu'on a besoin se retrouvera, du coup, à la portée de la main. Pour avoir une société sage, aller vers une paix durable. Pourquoi on ne le fait pas? Quelqu'un peut me dire pourquoi on ne le fait pas? On revient chez les banquiers, alors. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous allez retourner bientôt au Liban et que tout se passera très bien et qu'un jour, il n'y aura plus de misère cachée là-bas. Merci à vous.